auditrices, chers auditeurs de cette émission mensuelle de la Libre Pensée, à laquelle les animateurs de Article 25 prêtent cette plage, bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin, Henri Huile et moi, Michel Cadouche. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Renaud Duplex du collectif des écoles de Marseille qui a accepté de répondre à quelques questions de la libre pensée. Mais pour commencer, à Marseille, le fonds financement sur fonds publics du collège jésuite Ignace de Loyola suscite une forte opposition. Henri, peux-tu nous faire le point ?
Oui, merci Michel. Oui, effectivement. Alors, je rappelle très brièvement qu'il était prévu dans le quartier d'Arinque à Marseille la construction d'un collège public et que cette décision a été modifiée de façon à ce que ce soit un collège privé catholique, jésuite pour être précis, qui s'appellerait le collège Loyola, qui va être construit et bien sûr à grand renfort de financement public. Ça a suscité une vive opposition dans le mouvement laïque et dans le mouvement syndical enseignant, comme il est tout à fait prévisible et logique. Et donc il s'est tenu le comité départemental de l'éducation nationale le 28 février. Et dans ce comité départemental, les organisations syndicales, unanimes, ont déposé un vœu, que je ne vais pas lire en entier, mais je vous en lis un extrait. L'intersyndicale éducation du 13, FSU, UNSA éducation, FNEC, FPFO, CGT éducation, et rejoint en l'occurrence par Sud éducation, l'AFCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, entendent affirmer que les financements publics doivent être alloués au seul enseignement public et que la seule école qui soit en mesure de rassembler, d'assurer la mixité sociale et le droit à l'instruction pour toutes et tous, d'aider la jeunesse à construire sa propre voie, c'est l'école publique laïque. Bien entendu, il y a eu ensuite une conférence de presse à la sortie de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, qui se trouve au boulevard Charles Nédélec, bien connu de tous les Marseillais. Cette conférence de presse a regroupé à peu près le même panel d'organisations syndicales et associatives, rejoint par la Fédération de la Libre Pensée. Nous avons publié un communiqué signé, je répète rapidement la liste, hein, par la FSU, l'UNSA Éducation, la FNEC FP13FO, la CGT Éducation, Sud Solidaire, la FCPE et la Fédération de la Libre Pensée. Ce communiqué a été envoyé à la presse, remis aux journalistes qui étaient présents, qui ont interviewé les différents représentants des différentes organisations syndicales et laïques présentes. Voilà, c'est juste cette information que je veux faire, puisqu'aujourd'hui on a une part importante de l'émission consacrée à l'interview. J'arrête là cette info.
Très bien. Donc, comme je l'ai annoncé tout de suite, enfin il y a peu, Renaud Duplex du collectif des écoles de Marseille est parmi nous. Donc, pour l'interview, Claudette, à toi.
Oui, bonjour. Alors, bonjour Arnaud. Ouais.
Bonjour Claudette.
On a eu l'occasion de se rencontrer déjà dans une réunion sur la question de l'école publique, justement, et le financement des écoles privées. Alors, pour commencer, ce que je souhaiterais faire, c'est que de demander qui tu es, donc que tu te présentes aux auditeurs de Radio Galère et que tu présentes ton association, ses buts et ses activités.
Ok. Alors nous, on est le collectif des écoles de Marseille. On n'a pas d'entité juridique, hein. On est un collectif de fait, on est un regroupement de parents d'élèves. On est uniquement constitué de parents d'élèves. Cette constitution de parents d'élèves, elle est née en 2018 lorsqu'il y a eu Marseille contre les PPP. On était partie intégrante du collectif Marseille contre les PPP qui s'était opposé au projet de Gaudin sur la rénovation d'un parc des écoles JEP, ce qu'on appelle les écoles JEP. Il y avait 32 écoles et que Gaudin avait mis sur pied un marché de partenariat, ce qu'on appelle les PPP, et qui sont ni plus ni moins une privatisation du service public. C'est-à-dire que ces PPP, ces écoles qui allaient être reconstruites, allaient effectivement être construites à prix d'or, puisqu'elles seraient faites par les entreprises générales, qui font beaucoup appel à la sous-traitance et au passage près d'une marge, mais en plus allaient entretenir et maintenir pendant 25-30 ans ces écoles. Donc on s'y est opposé, il y a eu un recours juridique qui a été porté par 3 citoyens et il y a eu une victoire, puisqu'on a fait tomber le marché de partenariat qui avait pourtant été, enfin qui était en lice d'être signé. Et ça a fait jurisprudence parce que depuis on a attaqué en fait les évaluations qui avaient été faites pour faire ces marchés de partenariat. Et ça a fait jurisprudence, donc depuis il y a beaucoup moins de marchés de partenariat, surtout sur le patrimoine scolaire en France. Donc on est parti de là et ensuite on est resté groupé, ces parents d'élèves. Donc une fois qu'on avait gagné le recours, on s'est constitué dans un collectif qu'on a appelé le collectif des écoles de Marseille, le SEM, le CEM, le SEM. Et depuis, on agit, on a à cœur de défendre le service public et on surveille, on contrôle, on se documente, on regarde les comptes administratifs, on regarde les délibérations. On a proposé, on a beaucoup agi sur le programme du printemps marseillais. Et maintenant, on est plutôt critique vis-à-vis effectivement de l'exécution de ce programme-là qui a été mis en place. Et voilà, on est tous parents d'élèves. On vieillit, donc nos enfants vieillissent, donc nos enfants maintenant passent au collège, donc ce collectif va peut-être se transformer en collectif des collèges de Marseille, on ne sait pas trop, mais voilà. Mais en tout cas, on documente beaucoup ce qu'on fait pour qu'on se doute que ce combat sera certainement repris par d'autres parents d'élèves.
Très bien. Bon, alors ma deuxième question va porter sur ta position, ou votre position, selon... Ouais. Que tu parles au nom du collectif ou en ton nom personnel, sur la loi Daubré, qui est à l'origine du financement public des écoles privées.
Alors cette loi Daubré, je pense que on en a tous conscience, c'est l'historique en fait. Quand est-ce que cette loi Daubré a été mise en place? Il y avait un contexte, un besoin scolaire à l'époque. On avait besoin de locaux scolaires, etc. Et donc cette loi, si je me trompe, vous êtes plus spécialiste que moi, mais elle avait quand même vocation à ne pas durer. C'est-à-dire il y avait un premier temps. Et puis au final, elle a duré. Là, on se retrouve aujourd'hui dans ce financement. Alors c'est assez dingue d'ailleurs, ce financement d'écoles par des fonds publics. Quand on en parle... en dehors de la France, ça paraît quand même assez étonnant. Nous, on a une réflexion sur... Alors, on s'oppose, bien entendu. Pour nous, le service public reste les écoles publiques, le seul service public universel qui doit être gratuit pour toutes et tous. Ça, c'est une certitude. Donc, on s'oppose effectivement à cette loi. On s'oppose à tout financement de l'école privée. On n'est pas contre l'école privée. L'école privée, si elle veut exister, elle peut, mais en tout cas pas avec des fonds publics. Et nous, ce qu'on décèle, c'est qu'il y a une baisse démographique et que ce besoin scolaire qui avait été utilisé à l'époque pour faire cette loi Daubré, eh bien, ce besoin scolaire n'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'on a une baisse au niveau des effectifs des écoles et ce dont on se rend compte, et ça commence à être assez flagrant, c'est que les écoles privées feront toujours le plein et au détriment des écoles publiques qui se vident. Donc on a d'une part des écoles privées qui continuent à se faire financer à hauteur du nombre d'élèves qu'elles ont, mais en plus on a des fermetures de classes dans nos écoles publiques et là ça commence à être assez grave. Donc on espère qu'à un moment donné il va y avoir un recours juridique ou je ne sais pas, quelque chose, une évolution au niveau de la loi qui va remettre en contexte le besoin scolaire qui a largement évolué depuis 70 ans et qui est plutôt défavorable maintenant à ce système-là et qui est en train tout simplement de détruire les écoles publiques.
Bien. Bah écoute, je propose qu'on fasse une petite pause là pour toi tu souffleras. Et puis
on va faire
une petite pause musicale comme on a l'habitude de la faire.
Ok.
Voilà. Bah écoute, il se trouve que c'est moi qui dois faire la présentation de cette pause musicale, donc je vais le faire. J'ai trouvé une chanson qui me paraît qui a été créée assez récemment, qui est très très récente, qui date de 2024. Qui s'appelle « Tu nous casses l'école ». Et en fait, c'est une chanson dans le style rap hip-hop qui a été créée par le dispositif, par le groupe Le Dispositif et Adam l'Ancien, avec la participation de plusieurs établissements scolaires, donc en avril 2024. Pour dire ce qu'est Le Dispositif, donc c'est un groupe de rap hip-hop nantais, composé de deux personnages qui s'appellent Pablo et Bossard. Adam l'Ancien, lui, est un chanteur hip-hop. Tous deux ont proposé aux parents profs et élèves de Loire-Atlantique, qui étaient mobilisés contre la réforme Attal de tri social et de ségrégation scolaire, de participer à la création donc, d'un clip. Voilà. Et de se filmer... et eux ont composé la musique. Voilà, et je crois que Michel va passer la musique. et la chanson.
Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques.
Il ne fallait pas faire appel à l'honneur de gens qui n'ont pas d'honneur du tout.
On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir. On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. Dans les starting blocks, Paris pour écrire l'histoire.
Ça devient tragique, il faut qu'on prenne les choses en main. Sur les bancs de l'école publique, ils parlent de trier nos gamins. Compte de niveau, c'est couru la panse. La mixité dans le caniveau, c'est l'inégalité des chances. Premier de cordée, Atala, OCP, loupé. Enivré au sommet, ne font que claironner. Théorie du ruissellement, totalement erronée. Les derniers seront les premiers de corvée. La Macronie ne cache même plus sa perfidie. Tyrannie l'économie, elle met l'éducation sous perfusion. Dans nos visages, elle crache son ironie. Parents, profs, élèves, ensemble faut qu'on s'élève aux perfusions. Marre de cette énième provocation du pouvoir. Faut qu'on bloque ton système et ton choc des savoirs. Remballe ta réforme en carton, tes vieilles solutions. Ton uniforme, ta carotte et ton bâton.
On fait bloc face au choc des savoirs qui nous casse l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir. On fait bloc face au choc des savoirs qui nous casse l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. Dans les starting blocks, Paris pour écrire l'histoire.
Peuple d'ignorants ou peuple instruit éclairé. Pour le pouvoir des banquiers, lequel représente un danger. L'éducation ou l'abrutissement des masses. Ils ont choisi la sélection des classes. Par niveau faible ou fort, veulent en faire des rivaux. Faire du tort à nos mots, puis les faire dériver. Donne du corps à mes mots en exposeur de rivets. Donne de la force à nos profs pour qu'ils en soient délivrés. Du choc des savoirs et autres calamités. Alors où le budget militaire est devenu faramineux. Que les dividendes explosent, ils continuent de nous baratiner. Professeurs, élèves avancent en terrain miné.
On fait bloc
face au cœur de métal, cette réforme est l'état, démontre la violence de l'état. Le poing sur la table, c'est nos voix qui s'élèvent. L'objectif, protéger le destin des élèves.
On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir. On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. Dans les starting blocks, Paris pour écrire l'histoire.
Le rap RAP rassemble nos actions populaires. Besoin d'heures et de postes qu'ensemble on coopère. Élèves et leurs responsables, enseignants et vie scolaire. Équipe de direction supérieure, secondaire, primaire. Ce dont on a besoin c'est d'orthophonistes. Pas ton cynisme et de tes solutions douteuses, simplistes. Laisse-nous installer, entraider humanité. Étiqueter, cataloguer, c'est la pire de tes idées. Réforme du collège, réforme du lycée pro. Tout le monde s'arrache les veuges sur Parcoursup gros. Mais ah, tout ce que tu cherches c'est là. Destruction en règle du service public d'éducation, alors ça démolit à tour de bras. On n'oublie pas Blanquer en RTT à Ibiza. Respecte les élèves, ce sont d'abord des enfants. La colère se lève, il va bien falloir que tu l'entendes.
On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir. On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare. On dit stop aux casseurs, aux costards. Dans les starting blocks, Paris pour écrire l'histoire.
Bien, ben, donc Arnaud, ben, nous allons continuer. Donc j'avais une troisième question à te poser. Selon toi, on va rentrer dans un vif marseillais là.
Ouais.
Selon toi, quel bilan peut-on faire de la situation des écoles à Marseille ?
Alors les écoles publiques, si on prend plutôt le fonctionnement, on va faire le fonctionnement et ensuite la rénovation du parc scolaire. Sur le fonctionnement, nous on a toujours... Il y a eu de l'amélioration, c'est-à-dire sur la considération du personnel municipal. Pourtant, ça partait mal, parce qu'il faut se souvenir, en octobre 2020, la mairie, la majorité, a fait essayer de faire passer un protocole du préavis de grève, alors que ce n'était pas du tout dans le programme du printemps marseillais. Et donc, ça partait très mal, parce qu'on n'avait pas du tout anticipé ça, que la mairie allait contraindre ce préavis de grève qui reste un droit. Donc ça partait très mal. Donc on a pu éviter ça. Il y a eu des recours au tribunal administratif une fois de plus et ils ont retiré en fait ce protocole. Enfin, ils l'ont jamais représenté en fait. Et donc il y a eu une meilleure considération. Du coup, ils se sont dit c'est pas la bonne manière de faire. Donc ils ont mieux considéré les agents des écoles et du coup ils ont été attentifs à leurs besoins. Nous, c'est ce qu'on demandait, hein. C'est qu'il y ait une prise en considération de la pénibilité, de la difficulté de la tâche. Ils n'avaient pas le bon matériel tout simplement pour nettoyer l'ensemble des écoles. Donc il y a eu une considération et ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ont resectorisé, ils ont évité que les agents, comme ça se passait avant, soient déplacés par exemple du 4e pour aller au fin fond du 13e. Bon, ça c'était fini. Et du coup, il y a une meilleure considération, ce qui explique entre autres qu'on n'a plus du tout de grève en fait. On a très très peu de grève. Et ça, c'est parce qu'il y a tout simplement eu une meilleure considération des agents. Il ne fallait surtout pas partir sur un protocole du préavis de grève. Donc sur le fonctionnement, ça fonctionne, on va dire, plutôt bien sur la partie entretien, on va dire, ce qu'on appelle les tatas, on n'aime pas utiliser ce terme-là, mais sur les agents de la ville, sur les agents des écoles. Il y a eu une meilleure considération. Maintenant, elles ne sont toujours pas assez. C'est-à-dire que nous, on a un gros souci sur les écoles publiques de la ville de Marseille. C'est le temps de la pause méridienne. C'est entre 11h30 et 13h30, où on se retrouve avec un taux d'encadrement. C'est un temps de surveillance, en fait. On n'a pas d'animation. On a très peu d'animation. On en a un petit peu, mais pas trop. Mais le reste, c'est un temps de surveillance. Et le temps de surveillance, il n'y a aucune réglementation qui impose un taux d'encadrement. Donc on se retrouve, comme sous l'époque de Godin, pour les écoles élémentaires, donc du CP au CM2, on se retrouve avec un adulte qui peut encadrer jusqu'à 50 enfants, et parfois plus. Donc c'est toujours un temps accidentogène, pas du tout bénéfique pour les enfants, voilà. Et les maternelles, c'est toujours un agent pour 25 élèves. Donc là, on est toujours sur ces taux-là. Ils ont rajouté des animateurs, mais qui ne prennent que 18 élèves, donc ça enlève un peu de pression sur les agents, mais on se retrouve toujours sur un temps de pause méridienne qui est le plus catastrophique de France. Hein. Il n'y a pas une seule ville qui a un taux qui est plus catastrophique. Donc là, on a toujours un souci sur ce sujet. On misait sur une remunicipalisation du périscolaire, c'est-à-dire le soir, hein, sur les animateurs, qu'on puisse former nos propres animateurs. On reste toujours sur le système des associations qu'on connaisse tous, d'éducation populaire, donc Léo Lagrange, la Ligue de l'Enseignement, etc. Donc on est toujours sur ces associations. Bon, est-ce que c'est bien ou pas? Voilà. Donc il y a eu de l'amélioration, on veut dire, mis à part ce temps de pause méridienne qui est un peu catastrophique. La Sodexo, on a toujours ces repas qui sont produits de manière industrielle, hein. Donc le repas d'hier a été produit il y a 3 jours, mis dans des frigos, envoyé par camion et puis réchauffé dans des systèmes vapeur. Bon, bref, ça donne pas. Donc là, la ville, il y a eu un arrêt c'était la fin de la délégation de service public signée avec la Sodexo. Elle prend fin au mois d'août et donc là, ça va repartir sur un marché qui sera à nouveau sur la Sodexo, mais pour 3 ans cette fois, et on remunicipalise une certaine partie, c'est tout ce qui est commande des repas, facturation, etc. Avant, c'était fait par la Sodexo, maintenant c'est géré par la ville. Voilà, bon, la ville a monté en qualitatif les denrées, c'est-à-dire plus de bio, plus de local, etc. Mais on est vraiment très très loin de ce qu'on pouvait espérer quand même au bout de 5-6 ans. Mais bon, voilà, on en est là. Les choses avancent, mais pas très rapidement. Là où on a un plus gros souci, c'est sur le plan Marseille en grand, en fait. Voilà. Le plan Marseille en grand, donc c'est ce plan Macron, quand il était venu au Parc du Pharo, il avait fait son discours sur la situation de Marseille. Alors vous vous souvenez, tout y était passé, y compris les agents. Vous avez un souci avec vos agents. En gros, voilà, ils font toujours grève, c'est pas normal. Enfin bref. Tout le monde y était passé et il est arrivé sur le parc scolaire. Donc vous vous souvenez, l'article de Libération, c'est en 2018, les écoles marseillaises, la honte de la République. Donc ça, on l'entend tout le temps dans la bouche du maire. Il a raison, c'était catastrophique. Et donc, il a repris ce sujet. Il y a eu un audit qui avait été commandé par Godin, mais qui a été réceptionné par la nouvelle majorité sur un audit des écoles. Donc toutes les écoles ont été radiographiées, en gros, par 2 bureaux de contrôle. Et donc, on avait une situation qui était assez claire de ce qu'il fallait faire. Et là, on a mis en place le plan Marshall. On appelait ça au départ le plan Marshall, mais un plan massif de rénovation du parc scolaire. Des plans massifs, contrairement à ce que dit Benoît Payan, il y en a déjà eu à Marseille. Il y a eu les écoles Jules Ferry, il y a eu les écoles Égère, c'est le nom de l'architecte qu'on a construit 150 quand même, et il y a eu les écoles JEP. Donc des plans massifs, on a déjà été confronté à ce type de plans massifs, puis en France aussi on a eu, voilà. Et bien là en fait on a été surpris parce qu'ils ont fait une société publique des écoles de Marseille, les écoles marseillaises, donc l'ASPEM, c'est une société publique locale d'aménagement, je ne vais pas rentrer dans le juridique mais j'y viendrai quand même parce qu'on a déposé un recours qu'on a gagné. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont créé cette société publique qui va bien, qui va se focaliser sur la rénovation du parc. Mais en plus, on a vu arriver un marché de partenariat entre la ville et sa société qu'elle avait elle-même créée. Et ce marché de partenariat, en fait, embarquait la construction, la rénovation, mais également de l'entretien-maintenance. Et là, on s'est dit, mais attendez, non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il fallait donner les moyens à la ville, aux services techniques de la ville, les former, recruter, et puis donner de l'engagement, quoi. En fait, les agents attendent que ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec, non, en fait, c'est la société publique qui va faire cet entretien de maintenance sur l'ensemble des écoles dont elle aurait la gestion. Donc là, on se retombe où on avait combattu avec Benoît Payan, Jean-Marc Coppola à l'époque, etc. On avait lutté contre les PPP, qui étaient des marchés de partenariat. Et là, on se retrouve avec une société publique et on ressort les marchés de partenariat. Ils refont un marché de partenariat. Donc là, il y a eu une incompréhension. Ils nous ont dit non, mais vous n'y connaissez rien. Laissez-nous faire, on ne peut pas faire autrement. Bah, si, en fait, il y avait... En fait, on a compris qu'ils ont été plus ou moins conseillés par le ministère du Budget, par le ministère des Finances, par une cellule qui s'appelle FINAFRA. C'est une vingtaine de d'ingénieurs financiers au sein du ministère des Finances. Et FINAFRA est là pour conseiller les communes, les villes, sur la mise en place de délégations de services publics ou sur la mise en place de marchés de partenariat. Ils le disent clairement, ils sont là pour externaliser le service public, en fait. Et donc la condition, enfin on pense qu'il y a eu des tractations où la condition pour avoir les 400 millions d'euros là, d'aide de l'État a été de passer ce marché de partenariat entre la ville et la société publique qu'elle avait conçu elle-même avec l'État. L'État est actionnaire à 50%. Et donc on s'est retrouvé avec ce marché de partenariat. Nous, on a déposé un recours. Et on a déposé un recours parce que, ça ne nous plaisait pas, mais on ne peut pas déposer un recours au tribunal administratif parce que ça ne nous plaît pas. Donc on a cherché la faille et il y en avait effectivement une, c'est qu'une société publique locale d'aménagement ne peut pas faire d'entretien de maintenance. C'est comme si vous disiez que Remed va construire des immeubles et en plus va être gestionnaire de l'immeuble. C'est-à-dire elle va être bailleur, elle va être... Voilà. Non, une société d'aménagement, elle est là pour aménager. Une fois qu'elle a construit, elle remet le bien qu'elle a construit à la ville, à la métropole ou autre, mais en tout cas, elle n'a pas vocation à gérer. Donc le tribunal, là je vous le fais vite, mais ça a duré 2 ans, 3 ans de procédure. Donc le tribunal nous a suivis, on a eu gain de cause, c'était au mois de janvier, et donc on a gagné. Donc du coup, ça fait tomber le marché de partenariat, ça ne fait pas tomber la société publique, mais du coup, ça fait avancer la réflexion sur le fait que les moyens qui étaient alloués normalement à cet entretien de maintenance, qui étaient de 300-400 millions d'euros quand même, dans l'USNES plan, de la société publique, ben en fait, ces 300-400 millions d'euros vont pouvoir être redonnés aux services techniques de la ville. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ce sera pas fait par cette société publique. Ça va revenir à la ville. Maintenant, charge aux agents de la ville, aux syndicats, etc. On travaille avec eux. Bon, il faut pas le dire, mais on travaille avec eux. Mais pour qu'ils apportent effectivement cette solution de dire, nous, on veut bien prendre ces moyens-là et puis assumer l'entretien maintenance des écoles qui vont être faites. Donc ça, c'était la première erreur. C'était d'embarquer ce marché de partenariat dont on n'a pas compris. Le Grand Paris, par exemple, c'est une spline, elle n'a pas de marché de partenariat. En fait, le pacte d'actionnaires et les statuts même de la société publique suffisent. Bon. Là, on a eu une première interrogation. On s'est dit quand même, c'est gonflé, quoi. On a combattu ensemble les marchés de partenariat. À peine élus, ils refont un marché de partenariat. Et puis, la deuxième, c'est plus sur la stratégie. C'est-à-dire qu'on a 180 écoles qui doivent être refaites, comme à l'époque de Égère ou autre. En fait, refaire 180 écoles, c'est pas... Avoir un projet pour refaire 180 écoles, c'est différent que de faire 180 projets de reconstruction d'une école. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait un marché de travaux différent pour chacune des écoles qu'on doit refaire. Alors qu'à l'époque des GER, à l'époque des GEP, à l'époque de Jules Ferry, quand vous voyez une école Jules Ferry, elles sont toutes identiques. parce qu'il y avait eu une maîtrise d'œuvre publique. C'est-à-dire que la ville, avec des architectes locaux, avait réfléchi à l'école dont ils avaient besoin et qu'ils allaient dupliquer, en quelque sorte, à l'échelle de la ville. L'architecte Egère, il avait une grosse réflexion sur l'école. Il y a eu trois types d'écoles, parce qu'il a fait évoluer. Et du coup, ça coûtait beaucoup moins cher de refaire. Les études étaient les mêmes pour l'ensemble des écoles. Et après, il y a eu des marchés pour faire les travaux. Mais la conception de l'école avait été réfléchie à l'échelle de la ville. Et ensuite, voilà. Là, c'est différent. Là, on fait autant de marchés qu'on doit refaire d'écoles. Ce qui veut dire que ça a un coût, on imagine, colossal. Une architecture qui est totalement différente. Une complexité, parce qu'on va avoir des matériaux différents, des types d'équipements différents. Donc, en maintenance et derrière, on va se retrouver avec des écoles qui n'ont rien à voir les unes entre les autres. Donc, ça va apporter une complexité. Donc, on dit attention, attention. Alors, c'est sûr que c'est beau. Hein. C'est-à-dire quand on va couper des rubans, un coup, c'est une très belle école. On va ailleurs, ça va être encore une autre plus belle école. Mais ce n'est pas ce dont on demande. C'est-à-dire on demande d'avoir des écoles publiques qui soient fonctionnelles, opérationnelles. Et même le fait que les écoles soient toutes identiques, comme les écoles Jules Ferry ou les écoles Egère, ça donne un repère dans la ville. C'est-à-dire quand on passe à côté d'une école Jules Ferry, on sait que c'est une école. On n'a pas besoin de regarder école publique, on sait que c'est une école publique. On aurait rêvé qu'on ait à nouveau ce type d'école, avec les connaissances qu'on a du bâti, mais qu'on ait ce type d'école, on l'aurait plus les appeler les écoles païens, peu importe, mais qu'on ait ce type d'école. Là, on va les payer à chaque fois, c'est un groupe scolaire qui coûte 20 millions d'euros, avec une architecture, avec des études qui ne sont pas les mêmes d'une école à l'autre. Enfin, c'est un risque assez énorme que prend la ville sur ce choix stratégique. Et ça, personne ne l'a contrainte, hein. C'est elle qui a fait ce choix stratégique. Donc là, on a de grosses interrogations. Est-ce que c'est trop tard ou pas pour agir? Certainement trop tard, parce que là, ils en sont à 40. Alors en fait, quand on dit 188 écoles, ça c'est un autre sujet aussi. 188 écoles, il y a beaucoup de groupes scolaires. C'est 100 projets en fait de groupes scolaires, parce que c'est des écoles maternelles et élémentaires et on les regroupe dans des groupes scolaires. Ça, c'est une autre interrogation aussi. C'est-à-dire l'école qu'on connaît, les écoles Jules Ferry ou les écoles Egère ou quoi, qui avaient 200 gamins, 250 ou 300 max. C'est fini. Maintenant, on est à 400, 500. On est sur des petits collèges, on est sur des petits bahuts. On n'a pas trouvé de littérature qui donnait l'impact d'être dans un bahut. Mais en tant que parent d'élève, on peut l'imaginer que quand un élève arrive et que le directeur est totalement déchargé parce qu'il a un bahut et qu'il y a une vingtaine d'enseignants, rien que le conseil d'école, en fait, qui est le lieu de vie ou quoi. Moi, j'en ai fait des conseils d'école avant, hein, avec une vingtaine d'enseignants, avec une dizaine de parents. Mais on perd l'esprit de l'école publique où, en fait, tout le monde se connaît. Là, on ne peut pas connaître tout le monde. Et donc, j'ai une interrogation même sur l'objet même de l'école qu'ils sont en train de faire, où c'est des gros groupes scolaires. Et en plus, gros groupes scolaires dans un milieu urbain confiné, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'école, la cour des maternelles qui est en bas et l'école des élémentaires qui est toujours à l'étage, avec des grands filets, avec donc pas de terrain, enfin c'est des choses qui sont, enfin on se dit ça va pas, il n'y a rien qui est interdit dans la loi de le faire, mais ça ne va pas. Et puis ce qu'on espérait, c'est que l'école publique marseillaise, cette fois parce qu'on est dans un contexte marseillais, qui manque d'établissements publics, qui manque de bibliothèques, qui manque de piscines, qui manque de tiers-lieux médicaux ou des choses pour accueillir justement, voilà. On aurait pu imaginer que c'est ou qu'il manque de centres de production pour refaire le lien avec la cantine scolaire. On aurait pu imaginer que ce plan Marseille en grand, que ce plan école géré par l'ASPEM puisse dire bah voilà, je refais cette école-là et qu'est-ce qui m'empêche de adjoindre à côté un bâtiment, rajouter 1 million d'euros et faire une bibliothèque dans un quartier. Voilà, c'était. Eh bien non, et ça, ils ne pouvaient pas le faire de fait du marché de partenariat, parce que le marché de partenariat disait vous allez construire que des écoles, avec tel coût, tel prix, tel entretien, telle maintenance. On a fait tomber le marché de partenariat, donc ils ne sont plus contraints. On a compris qu'ils étaient en train de réfléchir maintenant pour faire effectivement des centres de production, mais tout ça, c'est une bataille de longue haleine. Et on aurait aimé que ça se passe autrement, en fait. Et ça s'est fait dans des bureaux entre 4-5 personnes et l'État. L'État macroniste, enfin, c'était Macron. Ce plan Marseille en grand a été décrit, critiqué par la Chambre régionale des comptes, par la Cour des comptes, par pas mal de collectifs. Il n'est pas cohésif, ce plan. C'est-à-dire on a le plan école, on a le plan emploi, Par exemple, on met 1,5 milliard de travaux sur la table. On aurait pu imaginer qu'il y ait des grandes écoles d'ingénieurs qui se montent à Marseille, des entreprises du bâtiment, des formations du bâtiment ou autres qui viennent accompagner justement ce plan de travaux. Non, en fait, il n'y a rien eu. On est même allé jusqu'à prendre une société italienne, Impresa, qui a fait l'école Castellane. Enfin, qui ne l'a pas faite parce que du coup, elle a déposé le bilan. Donc c'est quand même catastrophique, quoi. Il y a plein de choses où on se dit on aurait pu mieux faire. Alors les choses vont se faire, hein, mais à quel prix, à quel coût? Et puis il faudra dire merci aux Marseillais parce que l'État ne verse pas. Je vous ai parlé de 400 millions, c'est bien l'aide qui va être apportée par l'État, qu'on peut décomposer en deux parties. Il y a 256 millions qui sont effectivement de l'aide directe, qui ont été votés lors de la loi de finances 2023, ou je ne sais plus, mais en tout cas, ça c'est sûr qu'on a cette aide-là, même si Macron n'est plus là demain, on aura cette aide. Et puis on a 150 millions d'euros qui viennent de l'ANRU. Donc cet argent-là était déjà fléché, en fait. C'est des projets qui étaient déjà fléchés. Mais bon, ils ont fait apparaître ça. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes l'avait dit. Vous jouez sur les deux tableaux, c'est-à-dire sur la rénovation du patrimoine, enfin la rénovation urbaine, vous faites apparaître ces 150 millions d'euros et vous les faites apparaître également sur le plan école. Donc vous jouez un peu double panneau, quoi. Mais 400 millions d'euros, et le reste, c'est vous et moi, c'est les contribuables marseillais qui vont payer ce plan école. Alors ils vont essayer d'aller chercher de l'aide ailleurs, mais on aura de l'aide sur le développement durable, sur des choses comme ça, mais la majorité ce sera payé par le contribuable. Donc voilà, donc on est critique, on va passer pour les affreux, voilà, jamais content. N'empêche que l'histoire parle pour nous. On a eu des plans massifs, on a eu l'école légère, on a eu les écoles légères, les écoles GEP, on a eu les écoles Jules Ferry, et je reste persuadé qu'une maîtrise d'œuvre publique, Marseille en serait sorti grandi, on aurait fait travailler les services de la ville ou au moins l'ASPEM. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'ASPEM, on a pu rencontrer le directeur, à l'époque était Bourjaïa, ça a changé de directeur. J'ai pu lui poser trois questions. C'est un, est-ce que vous avez des agents de la ville qui travaillent chez vous? Là, il m'a regardé en haussant les sourcils, il a dit non, mais on n'y avait même pas pensé, c'est même pas imaginable. Deux, c'est est-ce que vous avez prévu de former le personnel de la ville? Parce qu'on met 1,5 milliard de travaux sur la table, autant en profiter pour récupérer ce retour d'expérience. Alors, est-ce que vous avez prévu de former les services techniques de la ville? Non. Et les personnes qui travaillent chez vous, est-ce qu'elles ont vocation, une fois qu'elles auront terminé le travail au sein de la SPEM, d'aller travailler au sein de la ville pour continuer? Non. Bon. Donc, du coup, cette SPEM n'apportait rien en plus pour regonfler, pour remobiliser les services internes de la ville. Voilà. Et donc, je vous ai fait un peu. Et puis, par contre, il y a des choses qui sont plutôt bien. Alors, je ne veux pas jeter des fleurs, mais toute la direction de Pierre Huguet, c'est certainement lui qui a fait le plus gros boulot. Il y a la Caisse des écoles. Donc, vous connaissez la Caisse des écoles. Nous, dans l'environnement de l'école publique, la Caisse des écoles, c'est un objet social très, très important et qui permet de financer les projets d'action éducative et qui permet de financer de manière équitable. C'est-à-dire on a une vision sur l'ensemble des projets qui sont déposés au sein de la Caisse des écoles et il y a des choix qui sont faits. Malheureusement, il y a des choix parce qu'il y a un budget contraint. C'est là où je me bats aussi pour qu'il y ait plus de budget. Mais en tout cas, il y a une refonte de cette Caisse des écoles. On avait peur, nous, à l'époque, que la Caisse des écoles disparaisse tout simplement. Mais là, elle revient. Il y a eu des nouveaux statuts. Elle s'est ouverte. Avant, sous Godin, il fallait payer 350 euros, je ne sais plus, pour être adhérent. Maintenant, c'est 10 euros. Il y a des administrateurs. Enfin, voilà. Donc, c'est super parce que cette Caisse des écoles, elle est très importante pour l'école publique. Elle vient en soutien des familles, par exemple, qui ont des difficultés financières ou autres pour acheter les fournitures ou autres. Enfin, voilà. Ou, en tout cas, ça donne du sens à l'école publique. Donc, ça, c'est un point positif. Voilà. Bon, je pense que je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà un peu l'état.
Bien, bah écoute, je te remercie.
Tu as fini ou pas?
Oui, j'allais te passer la parole.
Ah, merci, oui, d'accord. Moi aussi, je remercie Arnaud pour ses explications d'une grande clarté, d'ailleurs. Et donc, nous allons faire une petite pause et passer la chanson « Balance ton quoi ». Michel, pourquoi cette chanson?
Oui, alors d'abord, bonjour aux auditeurs. Hein. Alors, pourquoi cette chanson? Parce que déjà, je ne vous apprends pas, je ne vous apprends rien en vous disant que dans 3 jours, ce sera la journée internationale pour les droits des femmes. Donc cette chanson, elle, pour nous, elle aura un double, aussi, un double sens, si vous préférez, avec le sujet qui va suivre, bien entendu. Alors cette chanson, tout le monde la connaît, hein, on l'a entendue sur les ondes, ça s'appelle « Pourquoi ton quoi ?». Alors c'est une chanson féministe, hein, de l'auteur, compositeur, interprète belge Angèle. Il est sorti le 5 octobre 2018 et ce titre fait référence, bien entendu, au mouvement « Balance ton porc ». Alors déjà, là, vous voyez un peu la référence qu'il peut y avoir avec le sujet qui va suivre, vous allez voir. La musique et les paroles engagées d'Angèle, à la fois humoristiques, candides et incisives, font le procès du sexisme ordinaire, culturel, contemporain. Et soutient, bien entendu, l'idée que l'éducation est le meilleur moyen de lutter contre ce dernier. Voilà.
Les animaux de toutes les chattes se parlent mal 2018. Je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire un moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi.
Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde?
Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein.
Moi, ce que j'ai compris, en fait...
Pardon, c'est que je te coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce qu'il y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas, du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis, peut-être que dans le doute, on peut
non,
tenter...
Non, la laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
Eh oui. Eh ben oui, ok. Mmh.
D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
Ouais, très bien, voilà. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier. Mais c'est super.
Pas la peine de crier, parce que comme on est tous là, on entend très bien.
Oui, des petites remarques, toujours.
Quoi ? Un problème ?
Non, si tu fais toujours des petites remarques, voilà. Et... Tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vois, de les écouter.
Ah, écoutez,
vois,
moi, j'écoute pas les femmes,
Il me semblait.
On voit tous que t'as aucune sensibilité depuis tout à l'heure. Excuse-moi.
Calmez-vous, je pense que ce que vous essayez...
Oh, tais-toi.
Ta gueule.
Pourquoi ?
Elle intervient au milieu du... Tout hystérique, là. C'est fou de faire ça.
C'est désagréable.
On parlait du désir. C'est con, pourquoi on s'embrouille comme ça ? C'est elle qui me coupe, hein, coupeuse.
Laisse-moi te chanter, t'allais te faire un moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux.
Et bien voilà, ça nous fait une transition pour le sujet suivant là, Michel. Des brutalités et des agressions sexuelles sur des élèves à l'école Bétarame à Pau, au lycée Mélisan à Marseille et bien d'autres font la une des journaux. C'est absolument abominable. Mais que se passe-t-il ?
Oui, pour répondre à cette question, il ne vous a pas échappé que dernièrement, l'actualité de Tomoine a mis en pleine lumière récemment toutes les violences commises au sein de certains établissements d'enseignement privé catholique. Et dont, celui dont on parle, qui est le plus récent, je dirais, c'est le collège-lycée de Notre-Dame de Bétarame. Alors, cette affaire fait suite, elle, à celle du collège privé Stanislas, hein, qui, a priori, avec Bétarame, semble avoir rallumé la guerre scolaire après les déclarations de l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra. Alors, rappelons que cette école privée, sous contrat avec l'État, où la religion catholique occupe une place prédominante, a été accusée de recruter à plusieurs reprises des prêtres de la mouvance intégriste, très engagés dans la manif pour tous au moment du vote du mariage homosexuel. Stanislas aurait laissé prospérer un climat homophobe. Alors, revenons sur ce qui nous concerne. D'anciens religieux et personnels laïcs de Notre-Dame de Bétarame sont visés par plus de 150 plaintes déposées depuis un an pour violences physiques, agressions sexuelles et viols, remontant pour certaines à plusieurs décennies. Le parquet de Pau a ouvert une information judiciaire le 21 février. Alors, ce qu'on peut se poser, c'est que comment ces violences ont-elles pu se perpétrer si longtemps dans un établissement privé en recevant des fonds publics de l'État français alors que des plaintes étaient déposées. Cette situation dramatique pour les victimes s'inscrit également dans l'ensemble des crimes sexuels commis par l'Église, dont la CIAS, j'en rappelle, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, a montré l'ampleur, 330 000 victimes au niveau national. Nous rappelons également aujourd'hui que ce que Kate Porteous-Wood, qui est le porte-parole de l'Association internationale de la libre-pensée, reporter reconnu à l'ONU sur ses positions, sur cette question, il a fait exiger par la Commission des droits de l'homme, réunie en assemblée plénière, que le gouvernement français réponde officiellement sur son action concernant ces crimes commis en France. Les gouvernements Macron successifs, Philippe, Castex, Borne, et maintenant, on peut dire, les suivants, Attal et Pérou, n'ont jamais répondu à cette demande internationale officielle. Alors, il faut savoir que dans l'affaire de Bétarame, il y a eu des déclarations accablantes de la part de Mediapart. D'ailleurs, le député LFI Paul Vanier a interrogé à l'Assemblée nationale M. Bérou, Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, député de la circonscription, président du conseil départemental pendant 20 ans, qui, il faut le savoir, a été également maire de Pau, qui a nié être au courant des violences commises à Notre-Dame de Bétarame, ce qui est un peu hallucinant, parce que sa femme y a travaillé pendant plusieurs années à donner des cours de catéchisme. Bon, enfin. Alors, de nouveaux documents qui ont été publiés par plusieurs médias, des témoignages d'un juge aussi, affirment avoir, en 1998, confirmé à François Bérou, en définitive, les faits qui étaient patents et établis, remettant en cause les propos du Premier ministre, et affirme qu'il a été informé. Alors, si le Premier ministre était au courant, il a menti, la présentation nationale, il doit démissionner, c'est ce qu'il dit. Bon, aujourd'hui, le même député, Paul Vanier, met en place à l'Assemblée nationale une commission d'enquête. Il faut le savoir, peut-être qu'on pourra avancer. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Bétarame. Dans la longue liste des 330 000 enfants abusés par des prêtres dans la CIAS, on trouve des élèves d'une institution marseillaise, situé à La Valentine, route des Camoins, le lycée Mélisan. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les journaux La Provence et La Croix qui révélaient l'affaire suite à une déclaration du diocèse de Marseille faite le 12 novembre 2024. C'est l'abbé Raymond Mélisan, décédé en 2016, directeur de l'institution et fils de son fondateur, qui a mis en cause dès 2018 plusieurs victimes. Alors, dans le lycée Mélisan, les abus sexuels connus, jusqu'à plus en performer, ont eu lieu entre les années 1950 puis dans les années 1970-1980. 18 victimes à ce jour se sont manifestées. Alors, pour ce qui concerne le diocèse de Marseille, ce n'est que le 12 novembre 2024 qu'il révélait sur son site avoir reçu des signalements d'abus en 2018. Il explique son long silence par cette justification qui sent bon quand même le jésuitisme, il faut le dire. Les victimes n'ont pas exprimé le désir que cela soit rendu public, mais seulement d'être écoutées par une autorité ecclésiale. Nous avons pris en considération leurs paroles qui nous a rendus attentifs à de potentiels autres témoignages qui nous parviendraient. Voilà. Alors, depuis cette révélation, côté diocèse, c'est bien entendu silence radio. Il n'y a pas que ça. Hein. D'autres établissements aux alentours de Pau, principalement, se sont vus concernés par des accusations similaires. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'élèves qui étaient à Notre-Dame de Bétarame étaient également, ont eu un parcours par certains collèges. Donc, ils signalaient déjà, par exemple, à commencer par le collège Notre-Dame du Sacré-Cœur, dit Cendrillon, dans le nom quand même, pour un collège religieux. Alors, à Dax, dans les Landes, il est. Alors, dans ce collège, et d'ailleurs, et c'est par ce collège qu'est passé le chanteur Daniel Benavoine. Alors, un peu plus loin, dans le sud-ouest, à Montléon-Magnolac, dans les Hautes-Pyrénées, les anciens élèves d'un autre établissement, Notre-Dame de Garaison, d'ailleurs où était scolarisé Jean Cattet, que vous voyez, il y a du beau monde, ou le collègue Éché Copard à Saint-Palais, dans les Pyrénées-Atlantiques, livrent à leur tour de tristes témoignages. Alors, combien sont-ils à garder encore leurs souffrances pour eux ou sont cachés par l'Église ? Interrogation. Ainsi, pendant toutes ces années, comme pour chacun de ces abus sexuels dans l'Église catholique, l'omerta cléricale a régné. Il s'agissait, bien évidemment, de préserver l'Église catholique, par ailleurs si utile au maintien de l'ordre social. Mais je pense que ce temps est révolu. Pour la libre pensée, justice et réparation doivent être rendues aux victimes. Une des questions qui est posée aujourd'hui est celle des réparations financières dues à ces victimes pour qu'elles puissent se reconstruire, en tout cas pour les aider à le faire si cela est possible. L'Église doit et peut payer ces réparations. Ainsi, le diocèse de Bayonne, puisqu'on parle de la région, sans compter les biens des diverses congrégations catholiques, dispose de 39,2 millions d'euros de patrimoine foncier et immobilier et de 30,3 millions d'euros de trésorerie. Alors ces sources sortent justement d'une enquête qu'on avait fait la Libre Pensée en 2019, ces chiffres datent de 2019, qui a été d'ailleurs paru également dans complément d'enquête à une émission de France 2. Alors justement, il apparaît que ce mardi, hein, donc il y a 2 jours, la congrégation religieuse des Pères de Bétarame reconnaissait sa responsabilité dans, entre parenthèses, la souffrance de ses enfants anéantis et annonçait un nouveau fonds d'indemnisation pour les victimes de violences sexuelles prescrites commises par des laïcs. Et ça, c'est important, parce que les laïcs n'entrent pas dans une commission de reconnaissance et de réparation qui a été mise en place par l'Église en 2021. Puisque celle-là ne concerne que les religieux et non pas les laïcs. Alors, vous voyez, pour l'instant, ils ne sont pas prêts d'être remboursés. Alors, bien sûr que celui qui mène le débat, celui qui mène la campagne, qui s'est révolté dans le collège de Bétarame, déclarait, c'était Alain Esquer, je le cite, il dit « c'est un premier pas, dans le sens où il y a toutes ces violences physiques, toutes ces victimes de brimades, d'humiliations, de bastonnades, qui pour le moment ne sont pas concernés par ce fonds d'indemnisation. » Voilà. Alors, toute la lumière doit être faite. Les coupables jugés, les victimes reconnues dans leurs droits et indemnisées. Voilà ce que j'avais à dire sur les lycées.
Oui, merci Michel. Alors, une petite précision. Michel vient de parler des laïcs. Ce sont des laïcs avec un C, c'est-à-dire au sens de l'Église. Ce sont du personnel religieux, enfin annexe à l'Église, qui ne font pas partie du clergé. C'est pas pareil que les laïcs que nous sommes, nous, Q-U-E-S, qui combattons pour la laïcité. Très bien. Voilà. Maintenant, une autre actualité, justement, dans le domaine de la laïcité. Claudette, la Libre Pensée a pris une initiative concernant le versement d'argent public pour financer la restauration de la statue de Notre-Dame de la Garde, qui est propriété privée du diocèse catholique, rappelons-le.
Oui, en effet, on en avait déjà parlé un petit peu, enfin on parlait de la perspective, si on peut dire, déjà sur Radio Galère précédemment. Alors voilà, suite à un communiqué qui est paru dans la presse de la mairie de Marseille et qui est daté du 30 janvier, ce communiqué annonçait qu'une subvention de 300 000 euros serait versée pour la rénovation de Notre-Dame de la Garde, pour rénover donc les terrasses. Voilà. Donc nous avons adressé au maire et aux conseillers municipaux un courrier répondant à ce communiqué. Et nous l'avons adressé parce que nous trouvions quand même que... Alors d'une part, nous ne sommes pas d'accord avec le fait de subventionner les cultes, mais aussi parce que ce courrier était particulièrement pas clair. En fait, tel qu'il était rédigé, il pouvait laisser penser que les travaux qui étaient envisagés, donc, qui, dont il était envisagé de subventionner, pardon, étaient une obligation de la mairie. Que la basilique Notre-Dame de la Garde, c'était la même chose que les églises qui appartiennent à la commune. Ce document, d'ailleurs, précisait que c'était en relation avec la séparation des cultes et de l'État que le subventionnement devait être réalisé. Alors Notre-Dame de la Garde, dans le courrier, nous l'avons bien précisé, est une propriété du diocèse et n'est pas un monument historique. Et donc, c'est au propriétaire de faire et de financer les travaux. Par contre, il existe un article qui a été rédigé par Pétain en 1942 pour modifier la loi de 1905 qui a ouvert une possibilité pour les communes de subventionner ces lieux de culte. Nous l'avons donc écrit à tous les conseillers municipaux, au maire de Marseille, qui, dès lors qu'ils ont reçu le courrier, et ils l'ont reçu puisque j'ai eu les accusés de réception, étaient informés et avaient donc le choix entre la séparation des cultes de l'État votée en 1905 ou bien rejoindre dans la lignée de la municipalité Gaudin et la brèche anti-laïque ouverte le 24 décembre 1942 par Pétain pour approuver la subvention de 300 000 euros. Eh bien, ils ont choisi. Le 28 février, le rapport concernant la subvention à Notre-Dame de la Garde a été adopté en catimini, le mot n'est pas exagéré, sans être présenté autrement que par le numéro du rapport de la commission le concernant. Même pas le titre du rapport a été mentionné. Le maire de Marseille s'est absenté 2 minutes avant le vote. Il a été remplacé par M. Canicave, qui a mis aux voix de la façon suivante. Rapport numéro 79. Qui est contre ? Il est adopté. 2 secondes exactement pour choisir le camp anti-laïque. Vous pouvez aller voir l'enregistrement sur le site de la mairie. Vous y trouverez exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez dit démocratie, vous avez dit laïcité. S'il y a des mots pour ça, ce ne sont sûrement pas ceux-là. Pour la suite, eh bien, écoutez, nous vous tiendrons informés des actions que nous envisageons et de ce qui se passera donc, au sein de la mairie. Je vous remercie.
Très bien. Bon, ben, je crois que nous n'avons pas le temps de passer une chanson que nous aimons bien vous diffuser, qui est « Il y a plein d'argent au Vatican ». Simplement, je crois qu'il faut annoncer que demain, jeudi, le groupe d'Aix-en-Provence, Gavroche-Ferrer, tient sa réunion qui va avoir lieu au Ligounès, qui est place. Attendez, je recherche.
Romée de Villeneuve.
Ah voilà, qui est donc au Ligounès, place Romée de Villeneuve. Donc demain à 17h45 avec pour thème le féminisme. Bon, je parlerai sur le numéro de La Raison qui est paru ce mois-ci. Bon, la prochaine fois, il y a un article quand même extrêmement intéressant sur une féministe singulière qui est Madeleine Pelletier. Vous verrez, il y a plein d'aspects où elle est tout à fait intéressante. Voilà. Merci à Claudette, Henri, Michel, Arnaud Duplex. Merci. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Merci encore à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25. Au revoir et au mois prochain, le mercredi 2 avril, de 14h à 15h, comme habituellement.